Enfin, si vous êtes avec nous ce matin, vous avez effectivement une petite feuille avec des questions pour vous aider à suivre, mais je vais commencer par vous poser une question. Cet après-midi, vous vous promenez dans Cavaillon et vous tombez sur une vieille voiture télécommandée. Elle est toute cassée. Qu'est-ce que vous faites ? J'entends rien.
On veut peut-être la restaurer.
On veut la restaurer, effectivement, on peut la réparer. Alors comment on fait? Comment tu t'y prends?
Tu mets du scotch.
Tu mets du scotch. Peut-être, il a raison, il y a peut-être certaines parties qui méritent simplement d'être rescotchées, recollées. Peut-être.
Ouais.
On change les pièces, tout à fait.
Tu remets des piles.
On remet des piles, ça peut pas faire de mal, effectivement. La probabilité qu'elle soit pleine est assez faible.
On demande à papa.
On demande à papa, voilà. On l'amène chez Noroto. On l'amène chez Noroto, petite dédicace à Jérémy. Ouais, voilà, on va la réparer, on va changer les piles, on va la repeindre, on va mettre un scotch, on va peut-être changer une ou deux pièces à l'intérieur qui étaient cassées. Et la restauration sera complète quand vous aurez fait tout cela, quand vous aurez pris soin de l'extérieur de la voiture télécommandée et de l'intérieur de la voiture télécommandée. Et vous voyez où je veux en venir. Petits et grands, je vous propose ce matin non de parcourir le mode d'emploi d'une voiture télécommandée, je vous propose de continuer notre série, notre petit parcours dans le livre de Néhémie, que nous avons déjà commencé depuis quelques dimanches. Néhémie, vous savez, ce prophète revenu de Babylone à Jérusalem pour aider le peuple à être réparé, à être restauré. Souvenez-vous, on a vu ça donc, en septembre, chapitres 1 et 2, pour ceux qui ont de la mémoire. Néhémie apprend la triste situation des premiers juifs revenus d'exil. Certes, ils sont revenus, mais ça ne va pas du tout. Ça va pas du tout. Donc Néhémie a vraiment à cœur de revenir. Et c'est ce qu'il va voir le roi, chapitre 2. Chapitre 3 et 4, on a vu ça aussi il y a quelques semaines. Il motive tout le monde. Allez hop, tout le monde sur la muraille. Allons-y, une épée, une truelle, il y a des ennemis, c'est pas grave, on avance. Et tout le monde, bout par bout, refait la muraille. Chapitre 5 et 6, on les a pas vus ensemble, mais en gros, c'est que le chantier se finit. On a un temps record. La muraille est restaurée. Bon, il y a quand même quelques tensions. Cette fois-ci, c'est pas les ennemis autour, mais c'est dans le peuple. C'est ça. Bon, ok. Chapitre 7, tout va bien. Chapitre 7, la ville est reconstruite. Quasiment tout le peuple est là. La muraille est belle. Tout va bien. Ouf. Et on se pose la question, zut, dans Néhémie, il y a 13 chapitres. Donc, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à faire. Quelle va être la prochaine étape de ce peuple revenu d'exil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir de réparer le peuple revenu d'exil? Je vous propose de parcourir ce matin le chapitre 8 de Néhémie. Et on va voir comment ce peuple n'est pas seulement un peuple qui sait travailler, c'est pas seulement des maçons, c'est également un peuple qui veut écouter, qui veut comprendre, et qui veut obéir à la parole de Dieu. Un peuple qui veut écouter, un peuple qui veut comprendre, et un peuple qui veut obéir à la parole de Dieu. Et on va voir comment Dieu, à travers Néhémie, a pris soin d'Israël, non seulement l'extérieur, mais également l'intérieur de cela. Et je vous propose donc de lire donc Néhémie 8. On va commencer par les huit premiers versets de Néhémie 8. Vous savez qu'on aime bien lire dans la version second 21 qui sont en libre service ici, et on est à la page 338 dans Néhémie 8. Alors tout le peuple s'est rassemblé comme un seul homme sur la place qui fait face à la porte des eaux. Ils ont demandé au scribe Esdras de rapporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël, et à Esdras, qui était aussi prêtre, a apporté la loi devant l'assemblée. Celle-ci était composée d'hommes et de femmes, de tous ceux qui étaient aptes à la comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras a lu dans le livre depuis le matin jusqu'à la mi-journée sur la place qui fait face à la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, de ceux qui étaient en âge de comprendre. Le peuple tout entier s'est montré attentif à la lecture de la loi. J'avance au verset 7. Josué, Bani, Chérébia, Janine, Akoub, Shabbatei, Odja, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan et Pelaja, qui étaient lévites, expliquait la loi au peuple et celui-ci était resté debout sur place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. On va s'arrêter là pour un premier bloc. Et donc on voit, c'est là qu'on réalise que si la première moitié du livre de Néhémie s'oriente sur la reconstruction de la ville, la reconstruction de la muraille, la suite du livre de Néhémie s'oriente sur la reconstruction du peuple qui habite derrière cette muraille. À quoi ça sert d'avoir une ville flambant neuve, un temple reconstruit, si vous vous souvenez d'Agé, un temple reconstruit, une muraille toute belle, si le peuple à l'intérieur n'est pas lui-même restauré, renouvelé, réparé? De même pour nous, hein, à quoi sert d'avoir un local quasiment flambant neuf? On a mis un peu de peinture cet été. À quoi ça sert d'avoir un local flambant neuf si le peuple, si l'église qui l'occupe n'est pas elle aussi sans cesse renouvelée, restaurée, rétablie? Et dans nos vies, à quoi ça sert d'avoir des vies en apparence nickel et pieuse si nos cœurs à l'intérieur ne sont pas restaurés et rétablis? C'est ainsi qu'un beau jour, on l'a lu, nous sommes le 1er octobre, moins 441. Premier jour du 7e mois, moins 441. La muraille est finie et le peuple va voir le prêtre Esdras et ressort un vieux livre. Alors on l'imagine avec un peu de poussière si on veut un peu romantiser le truc, mais voilà, il y a un vieux livre transmis par leur ancêtre Moïse. Un livre qu'ils sont censés connaître, mais ça fait longtemps. Un peu comme nous dans nos bibliothèques, on a des livres qu'on ne sait même plus s'ils sont là. Il y a quelques mois, Christine, pour une histoire de collecte pour chez Carpus, tu nous as demandé est-ce que vous avez des vieux livres dont vous voulez débarrasser. J'ai fait l'exercice, j'avais dans ma bibliothèque des livres que j'avais complètement oublié qu'ils étaient là. Sauf que dans ce cas-là, dans le cas de Néhémie, on ne parle pas de l'intégrale d'Émile Zola ou d'un Astérix et Obélix ou je ne sais quoi, on parle de la Torah. La Torah. À ce moment-là, pour le peuple, les Écritures, c'est pas la Bible, hein, c'est la Torah. Les 5 premiers livres de la Bible. Et ils le redécouvrent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la lisent, ils la lisent, ils la lisent, et ils la lisent. Je sais pas si vous avez déjà fait l'exercice de lire la Bible depuis le début dans l'ordre. Un peu dur, hein, des fois. Hein, c'est un peu dur. C'est souvent un peu compliqué. Les enfants, les 5 premiers livres de la Bible dans l'ordre, est-ce que vous les connaissez? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Je vous mets au défi cet après-midi de lire les 5 d'affilée. Je vous mets au défi de lire 5 d'affilée. Mais là, non seulement le peuple enchaîne la lecture des 5 livres, mais il est où? Il est debout. Il est debout, en plein cagnard, et il écoute la lecture de Lévitique. Respect. Peut-être que vous, verset 3, du matin jusqu'à la mi-journée, vous êtes déjà peut-être, ça fait quelques minutes que je prêche, et vous êtes peut-être déjà en train de vous endormir. Le peuple est debout, en train d'écouter Lévitique. Respect. Il se montre attentif, il veut écouter, il veut comprendre ce que Dieu a déjà dit à Moïse. Waouh. Et d'autant plus, qui est là? Est-ce que vous avez vu qui écoute? Est-ce que c'est seulement les experts? Est-ce que c'est seulement les responsables religieux? Est-ce que c'est seulement ceux qui sont motivés et qui n'avaient rien à faire ce matin? Ils se sont dit, allons-y, pourquoi pas, j'ai rien à faire, allons écouter Lévitique. Non, ceux qui sont là, c'est des hommes et des femmes, verset 1 nous dit, tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Autrement dit, nous tous, même vous. La parole de Dieu n'est pas une histoire de spécialistes. La parole de Dieu n'est pas réservée aux experts. La parole de Dieu n'est pas réservée aux initiés. Elle s'adresse à tout homme, toute femme, toute famille, toute nation, toute tribu, toute langue. Dieu est le créateur de tous et donc veut s'adresser à tous. Est-ce que vous avez remarqué où est faite cette lecture de la Torah? Est-ce qu'elle est faite dans le temple? Parce que bon, la Torah c'est un livre religieux, donc bon, c'est dans les bâtiments religieux. Non, elle est faite où? En plein cagnard et dans la place qui fait face à la porte des eaux. Autrement dit, en pleine ville. On n'est pas dans le temple, là. La place de la parole de Dieu, elle n'est pas réservée au temple, elle n'est pas réservée aux églises, elle n'est pas réservée à l'avenue Yvon d'Ariès. La place de la parole de Dieu, c'est le cours Bornissac. C'est la place du Clos. C'est le cours Gambetta. Là, la parole de Dieu, s'adresse à tous. Dieu est le créateur de tous et veut s'adresser à tous. Et ce réveil du peuple d'Israël commence donc, on est en train de le voir, par la redécouverte de la parole de Dieu. Et cette redécouverte, en fait, c'est la clé du renouveau qu'ils sont en train de vivre. Dans l'histoire de la Bible, et même dans l'histoire de l'Église, jamais un réveil n'a commencé autrement que par la redécouverte de la parole de Dieu. Tous les réveils ont toujours commencé par la redécouverte de la parole de Dieu. On regarde l'histoire de Néhémie à ce moment-là, mais 2000 ans plus tard, 15e siècle, un certain moine allemand nommé Martin Luther a fait la même chose. C'est en redécouvrant la parole de Dieu qu'il a, malgré lui, lancé le protestantisme. Il a redécouvert cette même parole, alors Torah, Apocalypse, Évangile, 1 Chronique, tout, il a tout redécouvert. Et il a découvert le sens de l'Évangile. Jusqu'à là, dans la pensée courante, l'Évangile c'était quoi ? C'était la justice de Dieu, et la justice de Dieu qui va s'exercer un jour. Attention ! La justice de Dieu va s'exercer un jour. Donc châtiment, le peuple est terrorisé. Et Luther découvre dans la parole de Dieu que la justice de Dieu, c'est un terme pour dire que la justice de Dieu a déjà été accomplie et satisfaite en Jésus-Christ. Et son verset favori, vous savez le verset favori de Luther, on l'a vu en groupe de partage l'année dernière, Romains 1, 17. Le verset favori de Martin Luther, Romains 1, 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, c'est une citation de... Non, on l'a vu en groupe de partage. Le juste vivra par la foi. Habacuc. Et c'est en redécouvrant les paroles de l'apôtre Paul et celles, donc les citations du prophète Habacuc, que Martin Luther en arrive à placarder 95 thèses devant les portes de son église. Et c'est cela. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que ce réveil a été rendu possible, pas parce qu'une personne s'est rendu compte que ça clochait, parce que dans l'histoire de l'Église, il y avait déjà eu des théologiens qui avaient... Mais à ce moment-là, le peuple n'avait pas accès à l'Écriture. Or, à ce moment-là, et ça on a vu ça à Alice en cours d'histoire, Luther, ça correspond à peu près, grosso modo, à Gutenberg, l'imprimerie. Et la parole de Dieu et les découvertes que sont en train de faire Martin Luther, pour une fois, pour la première fois, elle s'adresse à tous. Et donc, entre guillemets, le réveil est possible. C'est quand la parole de Dieu est redécouverte par l'ensemble d'un peuple qu'un réveil peut se produire. Et jamais, jamais, jamais un réveil n'a commencé autrement que par cette redécouverte. C'était le cas de Néhémie, Esdras, Josias dans l'Ancien Testament aussi, si vous l'avez en tête, Martin Luther, les anabaptistes, nos ancêtres évangéliques du XVIe siècle. Et encore aujourd'hui, tout réveil futur au sein de nos églises commencera, non pas par un miracle, non pas par quelque chose, mais recommencera quand le peuple de Dieu redécouvrira la parole de Dieu et la puissance. J'ai envie de dire, désolé d'insister autant sur la parole de Dieu. Désolé d'insister sur ces plans de lecture que l'on vous donne tous les mois. Désolé d'un groupe de partage d'insister autant sur l'étude de la parole de Dieu. Mais quelle autre solution avons-nous si nous voulons être nourris et fortifiés et restaurés dans nos vies? Soyons donc ce peuple qui veut écouter la parole de Dieu. Soyons également ce peuple qui veut comprendre la parole de Dieu. C'est notre seconde partie. Soyons également ce peuple qui veut comprendre la parole de Dieu. Et je lis les versets 8 à 12. Néhémie 8 à 12. Ils lisaient donc distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le gouverneur Néhémie, le prêtre et scribe Esdras et les lévites qui donnaient des explications ont dit à l'ensemble du peuple: « Ce jour est un jour saint pour l'Éternel, votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » En effet, le peuple tout entier pleurait à l'écoute des paroles de la loi. Ils ont ajouté « Allez manger un bon repas, boire des liqueurs douces, en envoyant des parts à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour saint pour notre Seigneur. Ne soyez pas tristes, car c'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. » Verset 12. « L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire, envoyer des parts à d'autres et s'adonner à de grandes réjouissances. Pourquoi ?» Le dernier verset. « Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait exposées. » Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait exposées. Nous voyons dans la suite de ce chapitre que le peuple voulait pas seulement lire, entendre, écouter la parole de Dieu, il voulait la comprendre. Qui d'entre vous a dans sa bibliothèque ce livre ? Non ? Qui a ce livre ? Qui a ce livre ? Mais pourquoi vous n'avez pas ce livre dans votre bibliothèque ?
Parce que c'est dans ta main.
Parce qu'il est dans ma main. Je m'avoue vaincu. Kevin 1, Paul 0. Voilà. Pourquoi ?
C'est pas
français. Oui, parce qu'on ne comprend rien. Ça ne sert à rien d'avoir dans la bibliothèque un livre qu'on ne comprend rien. Si vous êtes... Qui a un livre de physique quantique dans sa bibliothèque ? Ben non, ça sert à rien, on comprend rien. Donc, ça sert à rien d'avoir ce livre. De la même manière, il ne sert à rien d'avoir la parole de Dieu. Il ne sert à rien d'avoir une Bible chez vous, si ce n'est pour pas la comprendre. Autant qu'elle soit en russe, en ukrainien ou en japonais. Alors, c'est vrai, il faut avouer que des fois, certains passages de la Bible sont plus difficiles, sont plus comprendre à saisir. Bon, ça vaut pas du, c'est pas du russe non plus, mais c'est un peu plus compliqué. Normal, pourquoi ? On l'a vu vendredi. Parce qu'ils ont été écrits par des personnes dans une autre langue, dans un autre pays, à une autre époque, avec d'autres coutumes. Donc forcément, nous on arrive 2000 ans plus tard, certains passages sont... Mais c'est pour ça qu'il faut vouloir la comprendre. Tout comme si vous voulez comprendre cette histoire-là, bah, il vous faut transpirer un petit peu. Pour info, c'est Pinocchio, Mary Poppins et, elle m'a dit, et le petit prince de Saint-Exupéry. Donc voilà, si vraiment vous voulez, en fait, vous pouvez la comprendre. Vouloir toujours mieux comprendre la Bible, vouloir toujours mieux l'interpréter, c'est justement ce qu'une dizaine d'entre nous ont commencé ce vendredi soir avec une formation qui va s'étaler pendant plusieurs mois. Et d'ailleurs, le verset de Néhémie 8 est un des versets qu'on devait apprendre par cœur vendredi soir. Et là, qui est volontaire pour prouver qu'il a appris le verset Néhémie 8 par cœur ? 8-8, parce que c'est le verset clé de cette formation. Personne ose ou tout discrètement, il révise un petit peu, là. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et en donnait le sens pour en faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voilà ce que c'est. Voilà cette formation, mais que vous ayez commencé avec nous ou pas cette formation vendredi dernier, remarquez que dans ce passage, Esdras confie à quelques personnes, les Lévites, le rôle justement d'aider le peuple à comprendre les paroles qui leur ont été exposées. Ce sont les Lévites qui encouragent le peuple à faire de ce jour un jour de fête et non de deuil. Alors certes, un jour de deuil parce que les Israélites, à la lecture de la Torah, à la lecture de Lévitique, ils réalisent qu'ils ne sont pas tout à fait à la hauteur. Et donc, ils réalisent leur incohérence, ils réalisent leur faiblesse. Et la parole de Dieu pointe souvent nos incohérences et nos faiblesses. Mais les Lévites les encouragent avant tout à voir à travers l'histoire d'Israël, dans la Torah, ils les encouragent avant tout à voir la fidélité de Dieu et la grandeur de Dieu. Et donc, de faire la fête, car Dieu est un Dieu sauveur. Alors nous n'avons ici à Cavaillon personne de la lignée directe des Lévites, ou alors vous nous l'avez caché, mais s'il vous plaît, si vous faites face un jour à un texte compliqué, à un texte qui vous déstabilise, s'il vous plaît, demandez de l'aide. Venez nous voir. Alors, pas que nous ayons la réponse à tout, loin de là, mais ne restez pas seul face à la parole de Dieu quand vous ne la comprenez pas. Celle-ci, elle est faite pour être lue, elle est faite pour être proclamée, et elle est faite pour être comprise. La parole de Dieu est faite pour être comprise. Tout comme ce livre est fait pour être compris par nos amis russes ou ukrainiens. Nous avons en tout cas ici l'exemple d'un peuple qui veut écouter, qui veut comprendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Et la fin du chapitre est magnifique. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi un peuple qui veut, ça marche pas, voilà, suivant, hop là, qui veut obéir à la parole de Dieu. C'est le dernier, c'est ma dernière partie. Et je lis la fin du chapitre à partir du verset 13. Le deuxième jour, les chefs de famille et tout le peuple ainsi que les prêtres et les lévites se sont rassemblés auprès du scribe Esdras pour qu'il leur indique le sens des paroles de la loi. On revient toujours sur cette idée de comprendre. Verset 14, ils ont trouvé écrit que dans la loi de Moïse que l'Éternel avait prescrite par l'intermédiaire de Moïse, que les Israélites devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois et faire entendre un message dans toutes les villes, tout comme à Jérusalem, pour ordonner « Allez chercher à la montagne des branches d'olivier, d'olivier sauvage, de myrte, de palmier, d'arbres touffus, pour faire des cabanes conformément à ce qui est écrit. » Verset 16. « Alors le peuple est allé chercher des branches, et ils se sont fait des cabanes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, et sur la place de la porte des eaux, et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée des Juifs revenus de déportation a fait des cabanes, et ils y ont habité. » Depuis l'époque de Josué, fils de Noun, jusqu'à ce jour-là, les Israélites n'avaient jamais célébré une pareille fête. Et il y eut de très grandes réjouissances. Verset 18, on a lu dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jusqu'au dernier, on a fait la fête pendant 7 jours. Et le 8e jour, il y eut une assemblée solennelle conformément à la règle. Ils lisent la Torah, ils la relisent, ils la relisent. Lisez 10 fois de suite Lévitique, Deutéronome. Ils n'arrivent plus à s'arrêter. Ils n'arrivent plus à s'arrêter. Mais en lisant ça, ils réalisent quelque chose. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'oublier un anniversaire?
Oui. Oui.
Par exemple. Le mien, voilà, par exemple, le mien. Vous réalisez, vous êtes tranquillement installé, puis à un moment, je ne sais pas, vous regardez votre téléphone, vous voyez la date. Oh punaise! C'est l'anniversaire d'un ami, c'est l'anniversaire d'un collègue, ou pire, l'anniversaire de votre conjoint. Oups! Et là, panique. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites?
On cherche un cadeau.
On cherche un cadeau en urgence, c'est pas grave, on va, on descend. Qu'est-ce que
on fait genre que c'était une surprise.
On fait genre que c'était une surprise, on essaye de. Voilà. On va chercher un gâteau, tant pis, on fait un gâteau au chocolat maison, on va à la pâtisserie, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Ici, Israël, c'est pas une histoire d'anniversaire. Mais c'est une sorte de fête traditionnelle que Dieu demande dans la Bible, qui est la fête des tentes ou des cabanes. Est-ce que vous savez ce que c'est cette fête? C'est une fête que Dieu avait demandée pour se souvenir que le peuple avait été dans le désert, de la fidélité de Dieu pendant le désert, où ils ont manqué de rien. Et donc pour leur rappeler cette condition-là, une fois par an, Dieu demande à Israël de sortir et de planter une tente dans son jardin, et pendant une semaine de se rappeler ainsi ce qu'avaient vécu les ancêtres. Lévitique 23, verset 42. Vous habiterez pendant 7 jours sous des tentes, afin que les descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes après les avoir fait sortir d'Égypte. Voilà ce qu'ils réalisent. Mais quand a lieu cette fête? Le 7e mois. Et là, quand ils lisent dans Némi, c'est quel mois? 7. Oups. Oups, oups, oups. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Vite, mieux vaut tard que jamais. Ils veulent obéir à la parole de Dieu. Ils veulent obéir à la parole de Dieu. Même s'ils avaient prévu peut-être autre chose pour leur 7e mois, ils réalisent ça. Vite, verset 15. Allons chercher à la montagne des branches pour faire des cabanes conformément à ce qui est écrit. Le peuple veut écouter, veut comprendre et veut obéir. Même si ça les déstabilise dans peut-être ce qu'ils avaient prévu de faire la semaine qui arrivait. Le mot-clé, l'expression clé, c'est « mieux vaut tard que jamais ».« Mieux vaut tard que jamais ». Et là, ça nous concerne directement. Hein. Alors pas pour une histoire de faire une tente, de planter une tente dans l'avenue Yvon d'Ariès, c'est pas ça la question. Mais quelle sera notre réaction, les uns les autres? Quelle sera notre réaction quand peut-être nous réaliserons un jour un décalage entre nos vies et un décalage entre ce que demande la parole de Dieu? Quelle sera notre réaction? Est-ce que nous aurons la force d'avoir la même réaction que le peuple israélite. Quel sera notre titre, notre réaction à titre perso, les uns les autres, quand nous constaterons des incohérences ou des mensonges dans, dans nos manières de gérer nos vies, nos familles, nos couples, notre sexualité, notre argent, notre travail, notre priorité, nos relations? Comment réagirons-nous à ce moment-là? Et en Église? Et en Église, quelle sera notre réaction quand en Église, nous pourrons constater peut-être notre difficulté à témoigner, à annoncer l'Évangile ici aux dizaines de milliers de personnes qui ne connaissent pas Christ à Cavaillon. Aux dizaines de milliers de personnes qui ne connaissent pas Christ autour de Cavaillon. Parfois, notre propension à nous contenter de notre petite vie d'église, alors que de trop nombreuses personnes autour de nous meurent sans connaître Jésus-Christ. Comme le peuple israélite, mieux vaut tard que jamais. Ayons le courage de toujours plus et toujours mieux obéir à la parole de Dieu. Et tant pis s'il faut nous faire un peu de ménage et de tri dans nos vies. Tant pis s'il nous faut changer ou perdre quelques conforts ou habitudes. Tant pis s'il nous faut être ignorés pour avoir osé annoncer le nom de Jésus-Christ. Mieux vaut tard que jamais. En conclusion, chers amis, je ne peux que nous encourager à être ce peuple qui veut écouter, qui veut comprendre et qui veut obéir à la parole de Dieu. Nous verrons prochainement la suite du livre de Néhémie, dès la semaine prochaine. Nous verrons les autres conséquences qu'a eu pour Israël cette redécouverte de la parole de Dieu. Mais en attendant, soyons ce peuple qui veut écouter, comprendre, obéir à la parole de Dieu. Mettons toute notre énergie à comprendre ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Peu importe si vous êtes ni expert ni lévite, si vous êtes petit ou si vous êtes grand, la parole de Dieu est à portée de tous. Car c'est ainsi que la parole de Dieu pourra nous fortifier, nous réparer et nous renouveler de l'intérieur. Nous sommes plus précieux que des voitures télécommandées. Alors si nous savons réparer des voitures télécommandées, à combien plus forte raison notre Père qui est au ciel, par sa parole, sera nous restaurer, nous renouveler et nous fortifier. Il l'a déjà fait puissamment en envoyant Jésus-Christ et nous offrir le pardon, et il continue de le faire par son Esprit, jour après jour. Que Dieu continue donc par sa parole à nous restaurer jour après jour, à nous réparer, et à nous simplement d'être ce peuple qui veut obéir, qui veut écouter, comprendre et obéir. Amen. Et je vous invite à la prière.